When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction d'Eurosport, et je suis très heureuse de vous retrouver. Entre deux matchs de padel, il aime toujours parler tennis, et il le fait très bien, c'est bien sûr Arnaud Di Pasquale qui est avec nous. Salut Arnaud.
Salut Anne.
Il n'est pas aussi sanguin qu'Andrei Rublev, mais il ne faut pas trop le chauffer sur certains sujets quand même. Notre pointure Maxime Battistella est avec nous aujourd'hui. Également, salut Maxime.
Salut Anne, toi t'as lu mes tweets sur le rugby j'imagine.
Exactement. Mais on était tous meurtris.
Ah oui, c'était difficile.
Alors, on va plutôt parler de tennis. Au programme de ce Deep Impact, un bilan du Masters 1000 de Shanghai qui a réservé quelques surprises. Absent de cette tournée asiatique dont on va parler, Djokovic n'est pour l'instant pas inquiété par les résultats en Asie de son grand rival pour la place de numéro 1 en fin d'année, j'ai nommé Carlos Alcaraz, qui semble calé un peu en cette fin de saison. Le grand absent de ce début d'automne en est-il le grand gagnant ? Ce sera notre débat du jour. Et il y aura bien sûr des petites stats de Constance, notre partenaire de jeu 7 et maths, pour compléter ce programme et pour appuyer nos propos. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast. Abonnez-vous et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Vous retrouverez également sur eurosport.fr des extraits vidéo de cette émission. Les joueurs sont prêts ? Deep Impact, c'est parti. Alors messieurs, on va démarrer par ce Masters 1000 de Shanghai, nouvelle formule hein, sur 12 jours, et qui était de retour au calendrier ATP après 3 ans d'absence, et qui a couronné un vainqueur assez inattendu, Hubert Hurkacz, vainqueur donc d'Andrei Rublev en finale, pour aller chercher son deuxième titre en Masters 1000 après celui de Miami en 2021, il y a 2 ans. Les favoris qu'on attendait, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Yannick Sinner même ou Alexander Zverev, ont été éliminés en huitième de finale ou même avant de ce tournoi de Shanghai. D'ailleurs, vous avez été assez inspirés, messieurs, dans vos pronostics, si je ne m'abuse. Tu as été surpris.
C'est moche, c'est très moche.
On commence comme ça.
Ah ouais, on attaque direct et puis après, je serai un peu plus sympa.
C'est le début de l'émission, c'est à double tranchant cette histoire, Anne, attention.
Moi, je ne me mouille pas, donc c'est un peu facile, mais je crois qu'il y en avait un qui avait annoncé Zverev. Et l'autre
oui,
Medvedev,
oui.
Quelque chose comme ça.
Exactement.
D'accord. Ouais, voilà.
Aucun souvenir. Mais alors, aucun souvenir.
C'est marrant cette amnésie.
Ouais. Ah, c'est arrangeant. Non, mais c'est vrai que pour le coup, c'était des pronostics qui, sur le papier, étaient plutôt crédibles.
Ah, oui.
Je vous rembâche, messieurs, Zverev, Medvedev, ça faisait partie des favoris. On a été surpris quand même. Au-delà de l'affiche de la finale entre Rublev et Hurkacz, par même l'affiche des quarts de finale avant, et même en huitième, il y a eu des sacrées surprises. Arnaud, ça t'a surpris, toi ?
Bah, oui, évidemment. Non, mais on ne revient pas sur nos pronos. En effet, au regard un petit peu des résultats, justement, des semaines précédentes, on s'était dit qu'ils étaient sur une bonne lancée. Mais en fait, ça a été un peu l'hécatombe, hein, ce tournoi, quand même. Ça a été assez étonnant. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés avec, finalement, des joueurs qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Hein. Je pense évidemment à Hurkacz, mais pas que. Où, finalement, toutes les têtes de série étant tombées, ils se sont retrouvés, finalement, à devoir gérer un tableau, assez exploitable. Il fallait l'exploiter. Et je trouve que, voilà, en tout cas, hein, Hurkacz l'a parfaitement géré, avec certaines difficultés, parce que ce n'était pas simple. Et c'est de la pression, souvent, aussi, de se dire, tiens, ah bah je j'ai pas Musetti à jouer, tiens, bah j'ai pas non plus Rune à jouer parce qu'il a perdu.
On rappelle hein, les affiches des quarts de finale, je te coupe, Dimitrov-Jarry, Humbert-Rublev, Marochsan-Hurkacz et Shelton-Korda. Donc la finale finalement c'est les deux plus costauds,
ouais.
Mais ces quarts de finale sont très étonnants.
Ouais, non mais voilà, donc on s'est retrouvé un petit peu alors surpris mais avec des super matchs quand même, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Malgré tout, c'est bien aussi de voir qu'il peut y avoir comme ça du changement, il peut y avoir aussi des difficultés. On sait qu'on est en fin d'année, on sait qu'il y a une usure physique, il y a une usure mentale qui s'installe. À quel moment? Ben, surtout au bout d'un moment où justement on est loin de chez soi, il y a une longue tournée qui s'installe, il y a quelques bons résultats et on se demande si finalement ces bons résultats vont permettre le bon enchaînement ou l'inverse. Et là, c'est ce qui s'est produit sur ce tournoi à Shanghai. Ils ont tous un peu accusé le coup quand même, j'ai l'impression. Je parle des tout meilleurs, des grands favoris. Et finalement, ben, c'est là où ça laisse la place aux autres, aux poursuivants. Et c'est aussi bah, hyper intéressant. Après, un des plus costauds bah, et un des plus réguliers d'ailleurs, quand on regarde sa feuille de match sur l'année, bah, c'est Rublev, qui est pas loin d'aller bah, remporter ce Masters 1000. Ça aurait été son deuxième de l'année après Monte-Carlo. Donc, il est pas loin, très très proche même. Ça se joue à rien sur la finale, on en reparlera. Mais ensuite, moi, je pense que c'est un peu le classique de fin d'année. Où les joueurs ont beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. Pareil, quand on parle d'Alcaraz, ben, il est un petit peu moins saignant, il y a un peu plus d'erreurs, il est un peu moins juste à certains endroits, et ça fait la différence. Et globalement, c'est un petit peu le lot de tous ceux qui ont perdu prématurément, et dont nos grands favoris, Maxime, on peut le dire, qui ont trébuché. Et le mien, pire que le tien
Encore
encore.
plus tôt.
3-6-1, mon Dieu! Et puis l'enchaînement derrière où il a encore perdu sur Thompson. Mais attention, ça permet aussi peut-être de faire du jus, de refaire, enfin, parce qu'il va rester quelques semaines. Il y a le Rolex Paris Masters qui arrive. Et c'est peut-être là que tout peut se jouer aussi pour certains, donc pour cette fameuse course au Masters.
Non, c'est sûr que c'est l'enchaînement est C'était très difficile, je pense, à gérer pour notre ami Zverev, parce que faut pas oublier que lui a commencé à Chengdu. Hein. Il n'a pas commencé
Oui.
à Pékin, il a commencé à Chengdu, donc une semaine avant, il a fait Chengdu,
Qui l'a
Pékin,
remporté?
donc il a gagné, Pékin, où il fait quand même demi-finale, et une très belle demi-finale face à Medvedev, et ensuite, donc, ce faux pas à Shanghai, et maintenant à Tokyo, enfin, lundi, donc hier, à Tokyo, dès le premier tour. Mais voilà, il est dans une course contre la montre depuis le début de saison, j'ai envie de dire, Alexander Zverev. Il a accumulé les tournois et les matchs. Et il retrouve depuis quelques semaines presque son tout meilleur niveau. Maintenant, voilà, il faut un moment qu'il souffle. Et donc, c'est très logique qu'à un certain moment, son corps lui dise mollo, quoi.
Il était
Donc, je.
27e au mois de mai, il est dans le top 10 aujourd'hui, donc il a accumulé les matchs pour revenir. Il avait peut-être dans un coin de sa tête le Masters, effectivement, si tout allait bien, mais c'est vrai qu'il le paye un petit peu aujourd'hui.
Ouais, je sais pas si c'est encore le cas vu à cause de ces deux défaites là
Oui.
précoces, mais avant Pékin, c'était celui qui avait gagné le plus de matchs depuis Roland-Garros, le joueur qui avait gagné le plus de matchs depuis Roland-Garros, et en pourcentage de victoire, il était au-dessus de 80%, et il était derrière Alcaraz et Djokovic seulement. Donc c'est dire à quel point il avait accumulé des victoires et de la confiance. Mais voilà, c'est pas anodin, hein. Il revient quand même d'une blessure grave, hein, d'une cheville avec des ligaments qui ont été déchirés, trois ligaments déchirés, il me semble, de la cheville. Donc c'est déjà une saison extraordinaire pour lui, je trouve, de retour. Et maintenant, voilà, il y a la course au Masters qui l'occupe. Et peut-être que c'est un peu trop une obsession, là, sur ces dernières semaines. Il a trop voulu enchaîner pour s'assurer sa place au Masters. Espérons pour lui que ces jours qui arrivent vont lui permettre justement de refaire un peu de jus, comme disait Arnaud, et d'être performant sur indoor, parce que sur dur indoor, avec le jeu qu'il a et son service, je pense qu'il a vraiment un coup à jouer, comme notre ami Hubert Hurkacz, qui s'est rappelé à notre bon souvenir, parce qu'on l'avait un peu oublié, faut bien dire, il était 17e mondial en arrivant à Shanghai, et il se retrouve 11e grâce à ce titre. Est totalement re replacé dans cette course au Masters. 335 points seulement de retard sur Rune, qui est le dernier pour l'instant qualifié, huitième et dernier qualifié. Donc, ça promet vraiment un printemps, enfin, pas un printemps, un automne. J'anticipe le printemps sur ta battue maintenant. un automne sur dur indoor passionnant.
Et quid de Medvedev, parce que normalement c'est aussi sa période,
Oui.
cette tournée
Ouais.
asiatique, même si elle était absente les dernières années, mais en tout cas sa surface,
Alors,
le moment où il est fort.
il a fait un très très bon tournoi quand même à Pékin.
Oui,
Parce qu'il
oui, oui.
faut pas oublier que Medvedev, au-delà de sa finale, certes perdue face à Sinner, Il a quand même pris Tommy Paul au premier tour à Pékin. Tommy Paul qui est maintenant 12e, il me semble, mondial. Donc, c'est dire la densité du tableau de Pékin et ce qu'il a dû traverser, Medvedev, dans ce tournoi ATP 500. Après, on a déjà parlé des problèmes de calendrier et du fait que Shanghai étant maintenant un Masters 1000 étendu, qui enchaîne directement après Pékin avec cette finale le mercredi. Est-ce que ça n'a pas un peu perturbé aussi Medvedev? On peut émettre cette hypothèse. Et puis surtout, je pense qu'il est tombé face à un joueur qui lui pose des problèmes. Korda l'avait déjà battu, faut le rappeler, hein. Korda l'avait battu au troisième tour de l'Open d'Australie en tout
C'est ce
début
que j'allais
d'année.
te dire. Bien sûr, c'est ce que j'allais te dire. Après, il y a aussi des joueurs en face. Ce n'est pas
Exactement.
uniquement un homme. Il y a des joueurs qu'on aime plus ou moins jouer. Et Korda, on peut en parler. Il a quand même fait un excellent tournoi. Alors, on est toujours un peu déçu quand parce qu'on attend beaucoup en fait, de ces joueurs extrêmement talentueux. Il a 23 ans. Il a été blessé. Il fait un début d'année tonitruant. Korda, tu l'as dit, la Maxime, avec des super victoires, avec une balle de match hein, contre Djokovic, je crois, sur le
Oui,
premier tournoi de
à
l'année.
Adélaïde, en
Il
effet.
perd à l'arrache. Il enchaîne super bien l'Open d'Australie. Et c'est là qu'il se blesse. C'est pareil. Donc, il est vraiment coupé dans son élan, alors qu'on avait vraiment l'impression qu'il était en pleine bourre pour faire une grande année. Donc, et ça met du temps de revenir à son meilleur niveau. Et là, il était vraiment en train de le retrouver. Il y a eu quelques matchs quand même remarquable hein, là sur
Ah
ce
oui.
tournoi. Il y a eu ce super match contre Shelton.
J'ai adoré.
Il y a
Adoré.
évidemment après des matchs qu'il a dû gérer aussi, Cerundolo. Il mène un 7-5-2, il est rejoint et finalement il arrive à mettre un petit tour de vis pour tenir et pour l'emporter en deux manches. Il y a eu plein de choses. Alors, et il y a ce match en demi en effet contre Hurkacz où c'est plus compliqué. On ne peut pas dire qu'il passe à côté parce que en fait Hurkacz a un jeu vraiment difficile à cerner où il y a. Il vous donne très peu de repères, il vous empêche finalement de vous régler. Une qualité de service
Phénoménal.
hallucinante,
Ah oui, en
hallucinante.
finale, ça a été phénoménal.
Ouais, mais même sur, tout, enfin, sur la demi aussi, hein, sur la demi, ça a été vraiment impressionnant. Beaucoup, beaucoup d'ace, beaucoup de services gagnants. Donc quand il se relâche et quand il arrive à jouer comme ça, de manière libérée, il est très compliqué parce que même du fond, je veux dire, il est loin d'être manchot. Au contraire, il vous met beaucoup de pression avec des trajectoires de balles. Très rectiligne comme ça qui rase le filet, des balles très à plat, donc c'est dur de contrôler, c'est dur de prendre l'ascendant dans l'échange, d'installer son jeu. Et Korda a pas réussi en fait, mais c'est aussi un sujet d'expérience, tout ça, je pense. Avec un jeune Korda, même s'il a 23 ans, il reste très jeune et surtout à ce niveau de la compétition, face à un joueur plus aguerri aussi qui est arrivé avec, j'ai le sens, beaucoup plus de calme, de sérénité. Et qui a su faire face à cette situation, à gérer ses émotions beaucoup mieux que le jeune Américain, mais une nouvelle fois, nous a montré à quel point son potentiel était sans limite,
Qu'est-ce qu'il
vraiment.
est beau à voir jouer. Qu'est-ce
Oh,
qu'il est
c'est
beau à voir
sublime,
jouer,
c'est sublime,
Korda.
c'est sublime.
Il donne l'impression de que faire avancer la balle, c'est évident, quoi. On a
Oh,
l'impression qu'il pousse la
c'est
balle.
incroyable. Non, mais le
C'est
toucher de balle,
d'une fluidité.
tout est juste, en fait, tout est en place déjà maintenant. Ça va se jouer sur la confiance et il est en train de la retrouver. Ça va être un. S'il arrive à être régulier, s'il arrive à être constant, s'il arrive à avoir la bonne motivation, parce que c'est aussi un sujet, on a le sentiment parfois qu'il peut manquer de niaque, de percussion, mais c'est aussi son jeu qui veut ça. C'est son relâchement, sa fluidité, son détachement presque. Mais s'il
Le
arrive à
physique
trouver le bon
aussi.
dosage, le bon compromis, franchement, et on se l'est déjà dit hein, tous ensemble, je crois. C'est potentiellement un vainqueur de Grand Chelem un jour.
Oui. D'ailleurs, avec Shelton, ce quart pour moi représentait le duel des Américains les plus prometteurs. Enfin, ceux qui, à mon avis, d'un point de vue talent et armes sur le court, ont le plus de chances de gagner un grand chelem, alors qu'ils sont devancés encore au classement, évidemment, par Taylor Fritz, Frances Tiafoe. Donc, c'était en fait ce Masters 1000 de Shanghai, même s'il n'y a eu qu'un top 10 en quart de finale, ce qui n'était plus arrivé en Masters 1000 depuis 2006,
Ouais,
bah, si vous
j'allais
vous
vous
rendez
donner
compte.
la stat, effectivement, qui a
Voilà.
été soulignée par Constance. Ça veut dire 147 Masters 1000 se sont passés sans
C'est fou.
qu'il se passe ça, sans qu'il n'y ait qu'un seul top 10 présent en quart de finale.
Voilà.
Et voilà, Shanghai a été celui qui vient briser la série. Mais c'est vrai que c'est incroyable.
Ouais, malgré cette, voilà, cette statistique hallucinante, je trouve que les quarts de finale, comme disait Arnaud tout à l'heure, n'ont pas du tout manqué de piquant.
Ah non, non,
C'est-à-dire
non.
que, en fait,
C'était prometteur même pour la suite, ces
c'est
affiches-là.
prometteur exactement, et ça nous, j'ai l'impression que c'était presque un teaser de 2024, ces quarts de finale. Il y avait donc ce duel des jeunes Américains. Il y avait Hugo Humbert. Il faut qu'on en parle un petit peu quand même
Bien
de
sûr.
Hugo, même si on en a beaucoup parlé déjà la semaine dernière. Hugo Humbert nous a fait très très plaisir, a battu Stefanos Tsitsipas notamment, a été extraordinaire contre JJ Wolf, qu'il a
Balayé.
éparpillé. Qu'il a éparpillé, oui. Bon, il s'est arrêté contre Rublev, mais Rublev, quand il est dans l'état où il est, dans lequel il était la semaine dernière, c'est-à-dire quand il vous impose cette intensité de tous les instants, ces frappes d'une violence absolue, et puis cette précision, cet engagement, c'est difficile de trouver la parade. Donc,
Rublev
c'est
qui avait
pas.
une revanche à prendre en plus sur Humbert.
Exactement,
Ouais.
Humbert qu'il avait battu à Pékin. Et 7-6 au dernier set, hein, il me semble. Hein, c'était très, 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 très serré à Pékin. Donc, je pense qu'il y avait une double motivation pour Andrei Rublev. Mais voilà, il n'y a pas de quoi rougir. Loin de là, Hugo, c'était son deuxième quart de finale en Masters 1000. Hein, le premier depuis Bercy, il y a 3 ans. Donc, il y a beaucoup de choses positives à retirer de ce tournoi et pour la suite.
Oui, on en avait parlé. C'était juste avant son match contre JJ Wolf. Et il a géré ce match-là avec une maestria quand même impressionnante, Humbert. C'est là aussi qu'on l'attend, dans des matchs où il a une chance et il l'a saisi, cette chance.
Ouais, après, il est vraiment revenu à son meilleur niveau là. C'est surtout ça qui est très intéressant et on est très content pour lui. Il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de travail fourni. Il était redescendu au-delà de la 100e place. Il a gagné beaucoup de matchs en challenger, donc sur le circuit secondaire. Finalement, on se rend compte que ben, ça fait du bien, même si ce sont des joueurs qui sont bien moins bien classés. Cette fameuse confiance dont on parle, surtout quand vous avez été, il a été quoi, 25e à son meilleur classement.
25e, ouais.
Donc, ben, ce qu'il lui fallait, c'était retrouver cette confiance, se dire qu'il était capable de nouveau de battre des grands joueurs, les meilleurs joueurs du monde. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ils le disent tous, quand Hugo évolue à ce niveau, il est capable de battre tout le monde. Et je trouve que ça, c'est aussi très important pour lui, pour sa confiance, de pouvoir sentir qu'il est dangereux, qu'il est craint en fait par les meilleurs. Et Rublev, il était averti, il avait perdu contre lui. Il est arrivé, il a fait un match incroyable, Rublev. Alors, il y a eu pas mal d'erreurs, de précipitations probablement de la part d'Hugo Humbert. Mais pourquoi? Parce qu'il sait très bien que s'il lui donne une balle un plus neutre à Rublev, dans l'état de forme dans lequel il était, il ne pouvait rien faire. C'est-à-dire que ça allait trop vite. Il était étouffé complètement dès qu'il y avait un échange. Il s'engageait. On sentait que de toute façon, c'était Rublev qui prenait le dessus. Donc, il ne vous donne pas le droit à l'erreur quand il joue comme ça, Rublev. C'est terrible. Avec en plus une qualité de première balle. Et moi, je suis assez impressionné parce que souvent on dit oui, mais au service, c'est fragile. Et cette fragilité, on ne l'a pas toujours vue là, hein, sur ce tournoi. En deuxième balle, OK, il assure parfois, mais il y a eu très peu de double faute. Mais c'est vrai qu'il y a des deuxièmes balles à 130 km/h parfois, c'était assez rare aujourd'hui. Mais globalement, bah, il est quand même capable de la mettre dedans, de faire jouer quand c'est important. Mais surtout, un pourcentage de première très élevé, globalement,
Contre
sur tous ces
Rkaec
matchs.
en finale, c'était fou à partir du deuxième set. C'est-à-dire qu'il perd le premier set assez facilement, entre guillemets, parce qu'il perd son service une fois et Rkaec est imprenable sur ses mises en jeu. Et puis à partir du deuxième set, Rublev, j'ai l'impression que c'était presque Rkaec qui servait aussi parce qu'il a mis 3 aces sur son premier jeu de service du deuxième set. Ça annonçait déjà la couleur. Et ensuite, il a maintenu un pourcentage de première balle assez hallucinant, et puis cette capacité de toute façon qu'il a de mettre la pression dès la seconde frappe et de ne jamais desserrer l'étreinte, ça lui a permis de tenir jusqu'au bout. Et franchement, cette finale, elle s'est jouée à rien, à 3 fois rien. D'ailleurs,
Ça ne se joue à rien du tout. Et
il
il a
était plutôt
même,
dominateur. Il était
bien
plutôt
sûr,
dominateur à
il a
l'échange.
plutôt l'impression qu'il va s'en sortir. Et c'est Rkaec qui est très opportuniste, qui sert très bien, qui à chaque fois qu'il est à 0-15, 15-30 sur son service, il y a les premières balles qui tombent
Il est d'un calme.
et Rublev qui peut rien faire en restant très calme. Après, enfin, je sais pas, mais globalement, si on fait un peu le point sur le tournoi et qu'on balaye un petit peu tous les résultats, il y a quand même Dimitrov aussi qui nous a fait
Ouais.
vraiment plaisir. Super match contre Alcaraz, contre Jarry. Qualité de service exceptionnelle de Dimitrov. Moi, je m'attendais à plus de résistance. Alors, il y a eu un très, très gros premier set contre Rublev en demi-finale. En revanche, après, je ne sais pas si c'est ça, si c'est Dimitrov qui baisse un petit peu alors qu'il a le break d'avance, il mène 2-0. Mais là, il y a Rublev qui a passé la seconde. Et franchement, ça a été un deuxième set à sens unique où là, tu te dis, bon, là, c'est vraiment incroyable la
Faut
qualité
laisser
de jeu
passer
qu'il est
l'orage.
capable de faire. Ce sont des demi-volées dans les angles qu'il arrive à jouer. Il a surdominé vraiment Dimitrov dans cette deuxième manche alors qu'il était mené 2-0. Ça fait 6-3, mais on sentait qu'il n'y avait pas de match. C'était fou.
Ouais, il a été impressionnant. Alors après, Dimitrov, il a tendance à caler hein, à ce niveau-là des Masters 1000 depuis un petit moment. Mais d'être arrivé jusque-là avec, en plus, voilà, un jeu qui est aussi, on parlait de Korda tout à l'heure, mais Dimitrov, c'est plaisant à voir aussi. Il y avait beaucoup
Ah,
de
ça, c'est
relâchement.
magnifique.
Il n'y a pas ces moments où il est bien et puis tout à coup, il baisse un petit peu. Là, il a réussi jusqu'en demi. Bon, et face à Rublev, évidemment, il était quand même en dessous, même le niveau de base est en dessous, mais. Ça fait
Ouais.
plaisir de revoir Dimitrov à son âge, à ce niveau-là. Et il a dit que c'était pour ça aussi qu'il continue à jouer, en fait.
J'aime bien qu'il nous rappelle de temps en temps qu'il a cette magie-là parce que c'est contre Alcaraz. Évidemment, on peut parler des erreurs d'Alcaraz, du fait qu'il n'était pas à son tout meilleur niveau, mais j'ai trouvé que Dimitrov mentalement était très, très, très intéressant sur ce match. Et même en demi-finale, comme tu le disais, Arnaud contre Jarry, il a rien lâché, hein. Le premier set, Dimitrov contre Alcaraz, il mène 5-2, il me semble, ou 5-3. Il sert pour le set, il se fait rejoindre, Alcaraz gagne les quatre derniers jeux, 7-5. Bon. On se dit, bah voilà, il a laissé passer sa chance et le deuxième set va aller vite. Et en fait, non, il en remet et c'est lui qui break d'entrée de deuxième set. Et à partir de là, en fait, il lâche plus sa proie. Donc, j'ai beaucoup aimé son intelligence de jeu contre Alcaraz, beaucoup de variations, énormément de variations avec son slice. Et
Agressif, ce fameux slice dont tu parles,
exactement.
très agressif, rasant. Il arrive à le jouer court de temps en temps aussi pour faire avancer ses adversaires. Ça a fait un petit peu dérailler à un moment Rublev aussi. Hein.
Ouais,
C'est ce qui lui
exactement.
permettait aussi de tenir. Et Rublev, au bout d'un moment, quand vous avez la balle qui est au niveau des chaussettes, vous ne pouvez pas l'attaquer comme vous voudriez. Donc, c'est vraiment une arme. Et limite, enfin, vu son slice de revers, de temps en temps, on se demande presque pourquoi il va arrondir en.
Ouais.
Et gratter la balle parce que pourtant, il a tendance à raccourcir aussi avec son revers recouvert. Mais globalement, ses variations de jeu, elles sont géniales. Physiquement, je le trouve très bien. On a vu quelques points et là, je ne sais pas si il y en a un contre Jarry où il coupe la trajectoire, il fait un passing bloqué en revers
En revers.
splendide.
Je sais pas si c'est parce que Roger Federer était à Shanghai,
Ouais, peut-être.
mais
C'était un
j'ai
hommage.
vu des coups. Ah, j'ai vu des coups. J'avais l'impression de revoir Federer il y a quelques années, notamment ce coup de poignet. Voilà, en revers, en passing de revers, hallucinant. Ce petit slice de revers aussi. Ces changements de rythme, surtout.
Mais
Ces
d'ailleurs,
changements de rythme.
Alcaraz l'a dit, hein, il a pas réussi à mettre son jeu en place parce que
Exactement.
tactiquement, il a été battu par les choix de Dimitrov. Donc, c'est fort de réussir quand même à empêcher Alcaraz de mettre son jeu en place. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont réussi. On
Surtout
va.
quand tu as perdu trois fois avant. Parce que
Oui!
Dimitrov avait perdu les trois matchs contre Alcaraz et il me semble qu'il n'avait pas pris un set à Alcaraz avant ce match. Donc,
Il a souvent un déficit contre ces joueurs-là, les tout meilleurs, le top 3, top 4. Il fait souvent des très bons matchs, hein, même à l'époque, face à Nadal, face à Federer. Il arrivait à faire des très bons matchs, mais il n'arrivait pas à les gagner. Là, c'est bien d'avoir réussi à le gagner, ce match contre Alcaraz, et puis après d'avoir confirmé jusqu'en demi-finale. Donc ça aussi, ça nous fait plaisir de voir Dimitrov à ce niveau-là. Il n'y a pas que les petits jeunes.
Une dernière chose, Anne, quand même. C'est Diego Schwartzmann.
Oui, aussi, grosse
C'est quand
surprise.
même le alors, ouais, c'est la surprise. Il ne gagnait plus un match. Je ne sais pas à quel
Il
classement
était
il
invité.
est. Donc, une invitation et il est allé battre quand même quelques joueurs parce
Il
que,
était
alors,
133e, il me semble.
il a battu Luke Evenaché, OK, au premier tour, mais derrière, c'est Leshka. Derrière, c'est Taylor Fritz. Un match incroyable, remporté au tie-break du troisième et une défaite simplement 6-3 au troisième face au Chilien Jarry. Donc, il a vraiment élevé son niveau de jeu. Il va mieux. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va durer? Est-ce que il va revenir? Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on l'a vu. Hein, il a pris énormément de plaisir. Hein. On le voit. C'est marrant des joueurs comme ça. Je trouve loin au classement retrouver l'émotion de la victoire eux qui ont déjà gagné plein de tournois sur des huitièmes, enfin sur des deuxièmes et troisièmes tours. Je trouve ça assez fou, tellement c'est bon de les voir. Enfin, il y a vraiment cette passion, encore une fois, cette envie de tenir, de rester, de s'accrocher pour vivre ces émotions. On en revient toujours à ça, finalement. Et c'était bon de le voir, je trouve, souriant, heureux et meilleur, surtout sur le court aussi.
Ouais, bah c'était finalement un Masters 1000 qui a réservé des surprises, mais des belles surprises et du très beau jeu. On s'est régalé tout au long de ces 12 jours. On va évoquer rapidement, pas forcément la course au Masters, puisqu'il y a plein de choses qui vont se jouer cette semaine dans les tournois de Tokyo, d'Anvers, de Stockholm, mais on va plutôt parler de cette lutte pour la place de numéro 1 mondial en fin d'année, puisque Novak Djokovic n'a pas joué cette tournée asiatique. On sait qu'il choisit maintenant un petit peu son calendrier. Il est plutôt jeune. C'est le grand absent de cette tournée asiatique. Il est toujours numéro 1 mondial. Il est chassé par Carlos Alcaraz, qui a clairement dit que c'était un objectif pour lui de reprendre le trône. Mais il a eu des résultats en demi-teinte, donc avec cette sortie de route un peu précoce à Shanghai. Il a perdu du terrain dans cette course de fin de saison. Alors, le grand absent de cette tournée asiatique de ce début d'automne, en est-il le grand gagnant? C'est notre débat du jour. Il a eu raison, Novak Djokovic, de s'éviter ce déplacement en Asie.
Alors, on dit souvent que les absents ont toujours tort. Voilà, je suis un peu dans le doute quand même. Je doute légèrement. Je trouve que il a eu plutôt raison, Djokovic, de son point de vue déjà, parce que, comme tu l'as rappelé, Anne, il a 36 ans et qu'il sait ménager sa monture. Donc, c'est important de refaire du jus, de se refaire une caisse et de la fraîcheur mentale surtout, de la fraîcheur mentale. Je pense que quand il va revenir à Bercy, il sera requinqué. Alors évidemment, les premiers matchs sont toujours piégeux parce que il sera peut-être en quête de ses sensations. Donc c'est peut-être sur son premier tour, ses deux premiers tours qu'il sera le plus prenable. Mais connaissant l'animal, je le vois mal se faire prendre. Et puis surtout, Carlos Alcaraz avait l'occasion dans cette tournée chinoise de reprendre la main. Alors pas au classement ATP pur, puisqu'il
Non, là, il y a trop de retard.
il avait 3000 points de retard, mais à la limite, ça, on s'en fiche, j'ai envie de dire, parce que le plus important dans cette course au trône, c'est le classement à la race, donc le classement depuis le 1er janvier. Et dans ce classement-là, Carlos Alcaraz avait 770 points de retard avant la tournée chinoise. Il pouvait légitimement espérer repasser donc devant Djokovic à la race après l'enchaînement Pékin-Shanghai qui pouvait lui octroyer au maximum 1500 points ATP 500 de Pékin et Masters 1000 de Shanghai. Or, Carlos Alcaraz a chuté en demi-finale à Pékin, donc il a accumulé 180 points, et puis il a chuté dès les huitièmes à Shanghai, donc il n'a récolté que 90 points supplémentaires, ce qui fait un total de 270 points. Donc il a repris du terrain sur Djokovic, quand
Oui,
même. C'est-à-dire qu'il revient à 500 points
500, ouais.
de Djokovic à la race, que le suspense est maintenu quand même pour la place de numéro 1 mondial. Si Carlos Alcaraz gagne 500 points de plus que Djokovic d'ici la fin de l'année, jusqu'au Masters, il passera devant Novak Djokovic, mais disons que là, il avait une vraie occasion de le faire, qu'il l'a manqué, et qu'on le sait à quel point Djokovic est fort sur dur indoor, et notamment quand il a des réserves énergétiques qu'on lui soupçonne maintenant. Donc je pense que là, oui, en effet, Carlos Alcaraz a manqué le coche, et que clairement, l'avantage est repassé du côté de Djokovic.
Alors après, ils n'avaient pas le même, enfin, ils n'avaient pas annoncé la couleur de la même façon, hein, parce que Carlos Alcaraz avait clairement dit que c'était son objectif. Lui, Djokovic, avait dit qu'il voulait jouer la Coupe Davis, que c'était ça sa priorité jusqu'à la fin de saison, et qu'ensuite il verrait les prochains tournois, les points à défendre, mais que voilà, c'est ce qu'il avait déclaré après avoir gagné l'US Open, c'était ça le plus important, que s'il terminait l'année numéro 1, c'était juste un bonus. Donc là, on n'est pas non plus dans la même approche.
En fait, vous pouvez pas avoir la même approche, vous pouvez pas avoir les mêmes objectifs quand vous avez un joueur qui a gagné autant de grands chelems et qui a 36 ans face à un très 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 jeune joueur qui a encore à peine 20 ans. En fait, forcément, il y a un décalage qui est colossal en termes de programmation. Même si Alcaraz est déjà très en place, bien installé, il y a presque encore à 20 ans une phase comment dire, Il doit encore chercher à se connaître. C'est pas encore, tout ça n'est pas encore très clair. J'ai le sentiment qu'il va encore faire des erreurs, forcément, même s'il est très bien entouré. À trop, moins jouer, beaucoup, pas assez, tout ça, ça se fait avec le temps. C'est le principe de l'expérience et ça ne se remplace pas. Il faut le vivre, point. C'est-à-dire qu'à un moment, vous ne pouvez pas tirer des conclusions quand vous n'avez pas vécu le truc. Vous pouvez vous projeter, mais la projection, entre la projection et la réalisation, la mise en pratique, sont deux choses différentes. Donc aujourd'hui, forcément, c'est normal que on ait un Alcaraz avec une ambition sans commune mesure, qui veut absolument tout rafler et qui veut finir numéro un mondial. Heureusement, heureusement, au regard justement de ce qu'il produit et ce qu'il propose. Et en face, vous avez un joueur de 36 ans qui doit se ménager. Il veut tenir le plus longtemps possible encore et qui se connaît par cœur, sur le bout des doigts. Donc, quand il fait l'impasse, et il le refera, enfin, il refera des impasses sur certaines tournées, sur certains tournois, bien évidemment, parce que ses objectifs ne sont plus les mêmes. Il y a évidemment les grands chelems, probablement le Masters quand même. Enfin, voilà, les grands événements avant tout. Et quand vous avez gagné autant de Masters 1000 que lui, bah, si vous en faites sauter un ou deux dans l'année, c'est peut-être moins grave que pour Alcaraz, qui lui est encore dans cette phase de connaissance de soi, de recherche, de compréhension. Je pense que c'est vraiment, encore une fois, très, très, très différent. C'est juste ça par rapport au contexte. C'est évident, quand vous avez 16 ans d'écart, de ne pas avoir forcément les mêmes feuilles de match, le même nombre de tournois joués, la même approche globale. Et les mêmes motivations, elles sont encore très très différentes.
Mais comme l'a dit Maxime, le suspense reste quand même
Oui.
entier. On va voir sur les tournois, il y a plus beaucoup d'occasions d'engranger des points. Il y aura Bercy, évidemment, qui va être un beau juge de paix, sans doute, dans cette lutte pour le trône de numéro 1 à la fin de la saison. C'était le 15e tournoi de sa saison, hein, 2023, à Carlos Alcaraz. C'est seulement la deuxième fois qu'il sort avant les quarts de finale. La première fois, c'était à Rome. Donc, ça montre aussi qu'il a eu une sacrée régularité et qu'il était sans doute lui aussi, malgré son jeune âge, fatigué sur le court, sur cette tournée asiatique. Et puis l'enchaînement, bien sûr, Pékin-Shanghai. On
Oui,
va.
juste
Le mot de la fin?
un dernier point. La question aussi est de savoir, c'est est-ce que c'est un problème de gestion de calendrier? Est-ce que effectivement Carlos Alcaraz est trop fatigué maintenant, en cette fin de saison? Il a trop enchaîné. On l'avait vu avec des bandages lors de l'US Open, notamment au niveau de la cuisse. Donc on sait qu'il est un peu sur le fil du rasoir là-dessus. Ou est-ce que finalement c'est pas plus mental, c'est-à-dire cette
Oui, ça reste une
obsession de la
fatigue
place, voilà,
quand même mentale, hein, aussi.
aussi, mais cette obsession de la place de numéro mondial, il le dit, il l'avoue, il dit j'y pense tous les jours à l'entraînement. Donc peut-être que à force d'y penser, à force de se mettre cet objectif-là et de se dire je suis en course pour y arriver, peut-être
Se met
que
trop de pression.
voilà, l'enjeu aussi est un peu dépassé le jeu. On sait que Alcaraz, sa réussite vient aussi du fait qu'il prend du plaisir, qu'il sourit beaucoup sur le court. On le voit beaucoup sourire, être relâché. Son relâchement est la clé de sa réussite. Je trouve que sur cette tournée asiatique, on l'a vu beaucoup plus s'agacer, être beaucoup moins détendu, à cause de son niveau de jeu sûrement, mais aussi peut-être à cause de cette place de numéro un mondial qui lui trotte dans la tête. Rappelons qu'il a un tournoi de plus dans cette fin de saison que Djokovic. Il va jouer à Bâle. S'il gagne Bâle, imaginons qu'il gagne Bâle, il serait à 180 points de Djokovic pour les deux derniers tournois de la saison, ce qui serait fou, quoi.
Ce serait beau. En tout cas, ça va promettre de belles choses à Bâle, bien sûr, et puis ensuite au Rolex Paris Masters que l'on diffusera sur Eurosport. Merci à tous. Deep Impact, c'est fini pour cette semaine. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi, bien sûr. Vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve la semaine prochaine. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. D'ici là, suivez l'actu sur Eurosport.fr, bien sûr, et sur nos antennes. Merci Arnaud, merci Maxime. Bye bye.
Merci Anne. Salut
Merci à
Maxime.
tous. Salut, à la prochaine.
Ciao, ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.